Voilà, alors, de nouveau, soyez les bienvenus pour ce week-end de méditation. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué que j'avais mis un titre, un sujet, pour ce dont je vais parler aujourd'hui. Et donc, l'intention que j'ai, mais bien sûr, si vous avez aussi d'autres intérêts, on peut aussi partir dans différentes directions. Mais mon intention première pour... ce week-end, c'est en fait d'explorer un sujet dont on ne parle pas aussi souvent que ça. Et je me disais qu'à travers un week-end, on pourrait, pour l'explorer avec plus de complexité, avec peut-être un peu plus de profondeur. Et c'est donc, en termes bouddhistes palis, c'est le terme Vedana, V-E-D-A-N-A. Et en termes de la traduction, ça c'est relativement compliqué. Parce que la traduction généralement en français, généralement je pense que c'est traduit par sentiment.
Sensation.
Ressenti.
Ça c'est ressenti, oui, bien sûr. Donc, il faut voir que ce mot Vedana, en français, sera traduit plus par sensation. En anglais, ça sera traduit plus par feeling, qui généralement en français est traduit par sentiment. Et en fait, ce qui est très intéressant par rapport à... ce qui est très intéressant par rapport à ce terme, Vedana, c'est en fait que le Bouddha le définit de beaucoup de façons. Alors, je ne sais pas si pendant ce week-end, on aura le temps d'explorer toutes les façons dont il en parle, parce que lui, il dit qu'il y a 108 Vedana. Donc, il y a 108 façons de regarder cette expérience, en fait. Et donc, il parle en fait d'abord qu'il y a deux sortes de Vedana, deux sortes de cette chose, et pour quelles sont les deux sortes? Les deux sortes sont la Vedana physique, donc là on peut traduire par sensation, mais aussi la Vedana mentale, qui en fait sera plus traduit, je dirais, par tonalité du ressenti. Alors moi, la façon dont j'aimerais traduire ce terme, Vedana, ça serait tonalité du ressenti. Je sais, c'est un peu bizarre. Alors pourquoi ressenti? Parce que c'est vraiment le ressenti. C'est vraiment par rapport à quelque chose que l'on ressent, soit à travers des sensations physiques, soit à travers, on pourrait presque dire, un ressenti mental. Donc, il y a déjà ces deux aspects. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile à traduire. Mais ça ne se réfère pas à une sensation physique comme si j'ai mal au genou ou comme si j'ai mal à l'estomac. Et ça ne se réfère pas à un sentiment comme si je suis triste ou je suis en colère. Donc, c'est un peu plus... C'est pour ça que je dis tonalité du ressenti, parce que c'est quelque chose qui est plus de l'ordre des tons, un peu comme des notes de musique qui auraient différents tons. Tu veux une chaise plus proche?
Merci, merci. Merci, bouge pas.
Après, le Bouddha dit qu'il y a trois sortes, parce qu'il y en a deux, il y en a aussi trois sortes. Et quand il parle des trois sortes, il parle que la tonalité du ressenti peut être agréable, peut être désagréable, ou ni agréable, ni désagréable. Et donc, je vais référer souvent à cette tonalité comme neutre. Mais c'est juste parce que ça veut juste dire pas agréable, non agréable, ni désagréable. Après, il dit, il y a Et ça, c'est intéressant parce que souvent, ce n'est pas couvert. Il y a aussi 5 autres façons de regarder ce terme, cette expérience. Il y a la possibilité d'avoir du plaisir, d'avoir de la douleur, d'avoir de la joie, d'avoir de la tristesse et d'avoir de la sérénité. Donc là, ça prend une couleur. Alors d'abord, c'est plus primaire, sensation, ressenti. Après, c'est les couleurs que ça a, agréable, désagréable, neutre. Et après, c'est un peu comme une inclination. On peut être, c'est agréable, on retrouve le désagréable, on retrouve le neutre, et il y ajoute, il y a un petit côté joyeux, il peut y avoir un petit côté triste. Et après, il y a aussi les 6 Vedanas, et ça, c'est les 6 d'un schéma simple à travers les sens. Donc ça, c'est vraiment, on regarde là le contact. Quand je vois quelque chose, quand j'entends quelque chose, quand je sens quelque chose, quand je goûte quelque chose, à travers le corps, quand je suis en contact avec des pensées, de nouveau, il y aura cette tonalité du ressenti. Il y aura un certain ton. Et après, il y a les 18. Les 18. Et alors, ces 18, c'est quand il y a les 6 à travers les sens, avec, qu'on va approcher, qu'on va se relier soit avec de la joie, soit avec de la tristesse, soit avec de la sérénité. Et après, il y a les 36. Alors, les 36, alors ça, c'est juste pour vous donner un petit peu une indication. Après ces 36, c'est, il va faire la distinction entre les 6 qui sont joyeux, mais qui sont soit avec un component, un aspect ordinaire, ou un aspect qui a de la compréhension. La même chose avec la tristesse, la même chose avec l'équanimité. Et après, vous avez les 108. Et dans les 108, il ajoute les 36 qui étaient au passé, les 36 qui vont être dans le futur, et les 36 qui sont dans le présent. Donc, ça, c'est le topo. Mais en fait, on ne va pas tout faire ça, mais je voulais vous dire que quand même, c'est intéressant, cette idée de Vedana, de tonalité du ressenti. Et donc, il y a deux choses qu'il dit. Il dit que toute chose va converger vers la tonalité du ressenti, et c'est pour ça que c'est une des bases, un des piliers de la pleine conscience. Vous avez les 4 piliers de la pleine conscience, ça veut dire les 4 choses qu'on va explorer pour, avec la pleine conscience, nous aider à une recherche, à une exploration. Donc vous avez le pilier de la pleine conscience du corps, dans lequel se trouve la pleine conscience de la respiration, du corps, du scan du corps. Après, le deuxième, c'est celui-ci. Donc, le pilier de la pleine conscience sur la tonalité du ressenti, sensation, sentiment, ressenti. Après, il y a le pilier sur les états mentaux qui souvent sont aussi connectés avec des états émotionnels. Et puis, le quatrième, c'est vraiment en regardant les différentes choses à cultiver, à faire attention, etc., etc. Donc, il donne beaucoup d'importance, si on regarde les textes, beaucoup d'importance. Toute chose converge, se retrouve dans cette tonalité du ressenti. Et en même temps, il dit, les tonalités du ressenti sont comme des bulles. Alors, d'un côté, c'est essentiel, important, et de l'autre, il nous dit, en fait, ce truc qui est si important, c'est comme des bulles, c'est comme de... un petit peu, C'est très éphémère. Et donc, ce que je voudrais parler, là, pendant ce week-end, c'est de ces deux aspects des tonalités du ressenti. D'un côté, c'est très important. Et d'un autre côté, c'est extrêmement éphémère. Et donc, c'est relativement difficile d'en être conscient. Et en même temps, parce que c'est très important, pourquoi ? Parce que ça a une influence incroyable sur ce que l'on dit. Ce que l'on dit, comment on le dit, comment on agit. Donc, je vous ai présenté le truc, maintenant on va revenir à quelque chose de plus simple, qu'on va regarder ce matin. Et donc, la tonalité du ressenti est intéressante parce que c'est dans un sens une porte de ce qu'on pourrait appeler la libération, une porte de l'éveil, une porte pour la compréhension. C'est en fait la pleine conscience de ça, de cette tonalité, va nous aider au fil du temps à avoir une réaction moins automatique et aller plus vers une réponse créative à cette facette, à cet aspect de notre expérience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de la méditation ? En termes de la méditation, ça veut dire qu'on va faire la même chose qu'on fait. Donc, on ne va pas chercher autre chose. Donc, si on a l'habitude de faire la pleine conscience, de porter l'attention sur la respiration ou de faire le scan corporel ou d'être conscient des sensations du corps ou d'être conscient des sons, on va faire la même chose. Donc, en termes d'attention, en termes d'ancrage, ça va être la même chose. Mais la particularité de cette pleine conscience de la tonalité du ressenti, c'est que ça va nous aider à aller plus un petit peu dans l'expérience. Parce que nous, souvent, ce qu'on fait, c'est que on a un contact, j'entends quelque chose, je sens quelque chose, je goûte quelque chose, et généralement, on a des commentaires par rapport à ça. Donc on part dans le commentaire de « j'entends ces pas, qu'est-ce que c'est ?» Est-ce qu'on va entendre des pas tout le temps pendant qu'on médite ? Enfin, on peut partir facilement. Ou on va faire de la méditation assise et vous allez peut-être avoir des petites douleurs, j'espère pas, mais dans le dos ou dans les genoux et tout ça. Et donc, de nouveau, il y a un contact, il y a une sensation, il y a un contact. Qu'est-ce qu'on fait avec la tonalité ? Et généralement, on s'y agrippe et généralement, on va amplifier. Et donc, le Bouddha nous dit, là récemment, enfin l'année dernière, on avait fait une conférence. J'avais organisé une conférence sur ce sujet aux États-Unis. Et un des articles, un des conférenciers disait, ce qui se passe avec la tonalité du ressenti, c'est que généralement, on ne le voit pas sur le moment, mais on s'en rend compte après coup par l'effet que ça nous donne, par la façon dont ça nous fait réagir. Et donc, cette idée de devenir plus conscient de la tonalité, c'est de ne pas être un peu dans l'après-coup et de rattraper un peu ce qui s'est passé, mais plus d'être au début, de telle sorte qu'il y ait plus de créativité. Et donc, maintenant, ce qu'on peut remarquer, ce qui est difficile avec la tonalité, c'est que c'est, comme le Bouddha dit, c'est comme une bulle, c'est comme quelque chose de... C'est très éphémère et c'est aussi très insubstantiel. Et donc, il faut faire attention, parce que ça, c'était un peu la chose que je voulais faire avec la conférence que j'ai organisée. Je voulais en fait regarder un petit peu, parce qu'il y avait des scientifiques, est-ce que la tonalité du ressenti est vraiment quelque chose qu'on peut mesurer et qui existe, ou est-ce que c'est une idée qui est utile? Et malheureusement, on n'a pas pu faire ça parce qu'on a eu un petit problème. La personne qui devait faire cet article est morte avant la conférence. Donc, la pauvre, elle ne pouvait pas regarder le sujet. C'était dommage. C'était dommage. Elle avait été malade pendant très longtemps. Et la méditation l'avait beaucoup aidée par rapport à sa maladie. Et donc, ce qu'on regarde, le contact. Et c'est là que ça devient intéressant. Les trois aspects par rapport à la tonalité du ressenti, quand il dit on est en contact, on a une tonalité, j'entends un son, j'ai un goût dans la bouche, j'ai une sensation, je sens une odeur, j'ai une pensée qui arrive, et généralement, immédiatement, on a la faculté. Je pense que c'est très important que quand on fait cette méditation, c'est pas pour arrêter la tonalité, parce que la tonalité est juste une capacité intrinsèque. Donc, il faut voir que c'est une habilité qu'on a en tant qu'être humain aussi. Les animaux, je pense, ont la tonalité du ressenti. Je vois ça avec mes chats. Il y en a un qui est malade, donc parce qu'il était malade et qu'il n'avait presque plus de dents, je lui donne une pâtée différente, parce qu'avant, c'était craquette. Croquette, 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 simple. Alors le pauvre, il est malade, il a presque plus de dents, je lui donne un sachet de pâté avec du liquide. Alors là maintenant, hein, c'est fini, hein, des croquettes. Et donc vous avez, l'autre, il n'est pas malade, j'en ai deux chats. L'autre, il n'est pas malade, mais c'est pareil, il adore cette pâté. Et donc, ils sont là. Donc, ils ont une tonalité du ressenti par rapport à cette pâtée. Hein? Alors, maintenant, les croquettes sont devenues neutres. Avant, elles étaient plaisantes, peut-être 3 ou 4. Maintenant, elles sont totalement descendues à neutre. Si pas... Et puis l'autre, la pâtée, vraiment, elle est haute. Hein? Donc, aussi, c'est juste une capacité que l'on a de reconnaître que quelque chose est agréable, désagréable ou neutre. Et donc, en termes de survie, d'évolution, c'est très important de savoir ça. Que quelque chose est dangereux, que quelque chose n'est pas dangereux, que je peux manger ça, c'est pas du poisson et tout ça. Donc, c'est une capacité que l'on a. Mais après, cette capacité que l'on a, dans un sens... on va, à cause de cette évolution, avoir un petit peu un déséquilibre par rapport à la tonalité du ressenti. Dans le sens qu'on va détecter, en fait, on est des machines à détecter les tonalités du ressenti. Ça, c'est ce qu'on fait. Et donc, on est des machines à détecter avec un biais vers ce qui est désagréable. Comme ça, on peut... survivre mieux, on peut réagir plus vite et on peut se sauver si c'est dangereux ou on peut éviter quelque chose. Donc, il va y avoir un peu ce biais qu'on va, être plus conscient des tonalités désagréables et en même temps, on va y réagir plus. Et donc, il y a presque comme un phénomène d'amplification. Les tonalités agréables, on va les reconnaître, bien sûr, parce qu'on a cette capacité, mais elles devront être beaucoup plus hautes que les désagréables pour qu'on les remarque. Donc, il y a un déséquilibre là. Parce que, je dirais... Alors, si on fait une échelle, tonalité désagréable, 0 à moins 10, tonalité agréable, 0 à plus 10, une tonalité désagréable, on la note à moins 1. Non, 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 pas question, pas question. Une tonalité agréable, plus 5, ah ouais, c'est bien, c'est bien. En dessous, ça va, mais bon, ça pourrait être mieux. Et donc, la pleine conscience de ces tonalités vont nous aider, parce qu'on va avoir une rangée plus grande avec le désagréable, et donc on ne va pas considérer un désagréable moins 1 comme un désagréable moins 10, c'est pas la même chose. Avec la tonalité agréable, ça nous permettra de voir de nouveau qu'il y a plus, il y a un plus grand étalage, il y a un plus grand, il y en a plus, il y a plus de possibilités que le plus 5 et plus 5. Donc ça, c'est dans un sens qu'on va essayer de faire ce matin, c'est de pratiquer bien sûr la méditation dont on a l'habitude, et en même temps, on va essayer d'y ajouter juste, est-ce que je peux porter un petit peu de pleine conscience par rapport à ça ? Est-ce que je peux être un petit peu consciente de cette tonalité du ressenti qui va être relativement subtile ? Alors, quand vous êtes assis dans cette pièce, la tonalité va dépendre de beaucoup de choses. Parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la douleur, on n'est pas tous égaux par rapport au système nerveux. Donc, on peut être assis en méditation, il y a des gens qui vont entendre peu de sons parce que leur ouïe n'est pas très... elle est un peu basse. Ou on va être quelqu'un qui va avoir une ouïe incroyable et qui va détecter des sons que personne n'entend et qui va être peut-être dérangé ou pas par ces sons. Et après, c'est ça qui va être bien avec la méditation marchée. La méditation marchée dans le jardin en ce moment, là, on pourra faire un peu plus l'expérience avec la vue. Parce que je pense que quand on fait la méditation, généralement, on fait la méditation sur la respiration, sur le corps, sur les sons. Mais il y a aussi un outil qui peut être très utile, c'est la vue. Parce qu'on est constamment en train de voir. Tant qu'on n'est pas aveugle, bien sûr, autant qu'on n'est pas limité par sa vue physiologiquement, généralement, on voit des choses. Et dès qu'on voit quelque chose, on a un ressenti, on a cette tonalité. Et là, on peut déjà le voir par rapport à la couleur. Vous voyez, il y a différentes couleurs, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du blanc. Et les couleurs ne vous ont rien fait. Je présume que le blanc ne vous a jamais attaqué, le jaune vous a jamais fait une tasse de thé, donc je présume que les couleurs vous ont rien fait. Mais en fait, immédiatement, on va voir une couleur et alors certaines personnes voient du bleu, oh, le bleu, certaines personnes voient du vert, et c'est intéressant, tout de suite il y a une connotation. Il y a une sorte de tonalité. Et donc, c'est pour ça, pendant la méditation marchée, ça peut être intéressant de regarder la tonalité, de regarder surtout par rapport à ce qu'on voit. Parce que c'est aussi ça qu'on fait avec les gens. Vous allez être, on vous demande d'être en silence aujourd'hui, et donc vous allez être en silence ensemble, et vous allez vous voir. Et certains se connaissent, certains ne se connaissent pas du tout. Et on voit quelqu'un, et immédiatement, soit on voit la couleur de leur pull, soit on voit, je ne sais pas, soit... Et on se dit, ah, j'ai un bon feeling. Ça, c'est la tonalité. Ou cette personne me donne un mauvais feeling. De nouveau, ça, c'est vraiment la tonalité du ressenti. Parce que surtout si vous ne connaissez pas la personne, elle ne vous a rien fait du tout. Et donc, c'est vraiment d'explorer, pas de dire qu'on ne doit pas avoir cette tonalité, mais comment je peux être avec la tonalité d'une façon bienveillante, d'une façon créative, d'une façon stable, d'une façon équilibrée. C'est ça, dans un sens, que l'on recherche par rapport à cette méditation. Donc, la façon de le pratiquer, c'est de l'associer avec une des ancres. Donc, soit on le fait avec la respiration, donc si on peut ressentir la respiration, être conscient de la respiration, on peut ressentir l'air qui rentre dans les narines, qui ressort, on peut ressentir le ventre qui qui s'étend, qui se rétracte. Et on peut juste être conscient des... Parce que c'est une sensation. Quand on met sa pleine conscience, son attention sur la respiration, en fait, on met son attention sur une sensation qui est très subtile. Et donc, à moins que vous ayez un rhume ou à moins que vous ayez des difficultés à respirer, généralement, la tonalité va être très neutre. Et là, c'est un peu difficile de méditer sur la tonalité neutre parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Il n'y a pas grand-chose à être conscient. Mais je dirais que c'est intéressant d'être conscient de la tonalité neutre. Et j'en parlerai plus cet après-midi. Juste d'être conscient qu'il y a cette qualité, y a cette tonalité dans notre vie souvent, que rien ne se passe, pas trop agréable, pas trop... Ouf. Il n'y a pas grand-chose. Et qu'en fait, c'est vraiment une tonalité qui existe, dont on fait l'expérience, enfin, qui existe. Pas dans le sens qu'elle existe, je ne sais pas si on pourrait scientifiquement la mesurer, mais on la ressent. On ressent quelque chose de relativement neuf. Et c'est relativement difficile pour nous de rester avec quelque chose qui est relativement neutre. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile, dans un sens, la méditation, souvent, parce que il n'y a pas grand-chose qui se passe. On est avec quelque chose qui est relativement neutre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, c'est aussi intéressant parce qu'il y a une citation dans un ancien texte qui dit « Si on comprend la tonalité neutre, elle peut devenir agréable. Si on ne comprend pas la tonalité neutre, elle peut devenir désagréable. » Ça, c'est très intéressant à regarder. Après, on peut utiliser l'encre des sensations. Là, si on utilise l'encre des sensations, on va voir qu'il y a deux sortes. On peut voir deux sortes de sensations. Il y a la sensation juste de contact. Vous avez soit les mains sur elles-mêmes ou sur les genoux. Vous avez les vêtements sur la peau. Vous avez les fesses qui sont assises sur le coussin ou les pieds sur le sol ou les jambes sur votre couverture ou sur quoi vous avez vos jambes. Et donc là, si vous regardez à ce niveau-là, ce contact, de nouveau, généralement c'est neutre. À moins que soudainement, j'espère que non, mais vos mains sont moites. Tout à coup, vos mains sont moites. Alors là, c'est ça. Le contact sera peut-être différent. Mais s'il n'y a rien de spécial avec ce contact, ça sera neutre, de nouveau quelque chose d'assez neutre. Ou on peut avoir un sentiment de fraîcheur qui peut être agréable ou désagréable. Ou une sorte de sensation de tonalité désagréable. Neutre par rapport à l'air frais ou l'air chaud. Donc de nouveau, c'est intéressant de voir. Des fois, vous avez un peu l'air chaud et vous dites « Ah, il fait bon !» Et puis si ça devient un petit peu trop chaud, d'agréable, ça devient désagréable. Ou si on ouvre la porte pour avoir un peu d'air frais, l'air frais, agréable. Si on laisse la porte ouverte, ça peut devenir désagréable. Donc vous avez le même truc qui va en fait faire que ça va changer. Notre rapport va changer. Donc, ou autrement, on peut avoir des sensations et donc de voir si elles sont un peu désagréables, d'être avec. Comment je ressens ça? Qu'est-ce qui se passe? Après, il y a les sons. Les sons peuvent être intéressants parce que si on les entend bien, si ça nous convient, on peut tout de suite voir que, de nouveau, les sons ne nous font pas... Enfin, ils ne nous font rien généralement, ils ne sont pas là pour nous attaquer ou quoi que ce soit, ils sont juste, ils arrivent, ils se passent. Et on entend un son et généralement, immédiatement, il y a une petite tonalité. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est on prend son encre habituelle qui marche pour nous, que ce soit la respiration, les sensations ou le son. Et après, on va essayer de voir. Mais sans c'est pas une analyse scientifique, c'est juste, est-ce que je peux être conscient de la tonalité? Alors personnellement, je dirais pas de dire ah c'est agréable deux et demi, c'est pas du tout l'idée. C'est plus d'être dans l'expérience. Et juste, est-ce que je peux être consciente ou conscient de ça? Donc là, on peut en parler plus à la fin de la matinée. On aura une discussion, on pourra en parler plus. Donc l'ancrage, on utilise la même chose avec juste un petit accent vers la tonalité. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'amener l'aspect de vipassana, de vision pénétrante, avec la tonalité du ressenti, et de remarquer quand le son disparaît, est-ce que la tonalité part aussi? Quand le son continue, est-ce que la tonalité reste la même, augmente, diminue? Quand on ressent une sensation, quand la sensation part, est-ce que la tonalité part avec? Si la sensation continue, est-ce que la tonalité reste la même? Est-ce qu'elle monte? Est-ce qu'elle descend? Et donc ça devient vraiment un champ très intéressant par rapport au Bouddha qui dit « Les tonalités, c'est comme des bulles. » Parce qu'en fait, des fois, nous, si on s'y agrippe, on va augmenter la tonalité. C'est ça qui est intéressant, c'est que le truc, normalement, peut être relativement léger, arriver, passer. Mais en fonction de ce que ça va être, il faut aussi voir qu'il y aura les trois niveaux. Quelque chose de léger qui peut partir vite, mais si on s'accroche, on le fait perdurer. Quelque chose qui est un peu plus intense, et de nouveau, si on s'accroche, on peut le faire perdurer ou on peut le faire amplifier. Et si c'est quelque chose qui est très intense, là, on ne pourra pas faire grand-chose, mais on peut peut-être créer de l'espace. Et la dernière chose que je veux signaler avant qu'on s'assoie et qu'on fasse un peu de méditation, c'est le fait qu'il y a aussi les pensées. Qu'en fait, on n'a pas une pensée et on l'a. On n'a pas un souvenir et on l'a. Et donc, on a un contact là aussi. Et les pensées aussi vont avoir une tonalité. On va avoir une tonalité avec les pensées. Ce qui fait qu'on pourrait en fait... C'est pour ça que le Bouddha dit qu'on peut avoir 6 tonalités. Parce qu'on pourrait être confortable avec le corps, tonalité neutre vers agréable. On pourrait entendre un son qui est un peu désagréable. Et on pourrait avoir une pensée qui apparaît soudain, qui est soit très agréable, qui va faire monter vers l'agréable, ou soit désagréable, qui peut faire descendre vers désagréable. C'est ça qui est aussi intéressant de voir, quand des fois on fait l'expérience de 6 différentes tonalités, et des fois, elles convergent. Et souvent, ça va être soit une sensation, soit une pensée qui va les faire converger. Mais on peut regarder ça plus à travers le week-end. Donc on va rester peut-être un peu simple, mais de remarquer ça. Et la dernière chose, c'est toujours quelque chose de plus avec les Vedanas, c'est le fait que de faire l'expérience, quand on médite ou pas, d'une pleine conscience bienveillante, a aussi une tonalité. Et on en parlera plus tard. Mais des fois, on peut remarquer ça aussi. La tonalité de la pleine conscience bienveillante, accueillante, qu'on a développée, qu'on est en train de développer, et dont on peut faire l'expérience. Ok ? On essaye ? Allez, on va d'abord se mettre debout. Et si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, allez-y, n'hésitez pas. On peut s'étirer un petit peu. On va peut-être ouvrir la porte juste un petit peu. Juste un petit peu. Juste un petit peu, voilà. Et puis, on va faire juste quelques minutes la méditation debout. Donc, on se met debout, comme on est confortable. Les yeux restent relativement ouverts. On regarde devant soi, dans le vague. Et d'abord, on met son attention sur les pieds. Les pieds sur le coussin ou sur le sol. Est-ce qu'on peut être conscient des pieds? Est-ce qu'on peut être conscient aller dans les pieds? Est-ce pas conscient d'une certaine tonalité dans ses pieds? Après, on peut amener son attention sur le bas des jambes et les genoux. Conscient des sensations dans cette partie du corps. On peut aussi voir si on a un petit peu de tonalité du ressenti par rapport à ces sensations, à cette partie du corps. On va porter son attention sur le haut des jambes, des cuisses. Puis on va être conscient du pelvis, des hanches, des fesses, des sensations dans ces parties du corps, des tonalités par rapport à ce contact avec ces sensations. Porter son attention sur le ventre, puis la poitrine. S'il y a des sensations, est-ce qu'on peut remarquer si elles apparaissent et disparaissent, et les tonalités d'eux-mêmes? On peut porter son attention sur le bas du dos, le haut du dos. S'il y a une sensation spécifique, on peut en être conscient. On peut être aussi conscient de sa tonalité. Et est-ce qu'elle change cette tonalité avec la sensation? Porter son attention sur les mains, les bras, après on peut être consciente des épaules, du cou, des vêtements sur la peau, en contact d'une tonalité un peu neutre peut-être. Après on peut être conscient de la tête, du scalp, de la figure, de l'intérieur de la tête. Et on peut être conscient du corps en entier, ici et maintenant. Qui nous tient debout. Et tourner peut-être un regard bienveillant vers ce corps. Si nous avons un regard bienveillant vers ce corps, quelle est la tonalité de cette expérience ? Puis après, on va tourner doucement d'un côté de l'autre avec les yeux ouverts. Puis après, on va se regarder les uns les autres et se sourire. Et quelle est la tonalité de ça? Et après, on va s'asseoir. Donc, si on trouve une position confortable, là, on va faire une petite assise de 20 minutes, et puis après, ça sera suivi par une petite marche de 20 minutes. Donc, quand nous sommes assis en méditation, sur le sol ou sur une chaise, nous essayons de cultiver une position relativement relâchée. Mais le dos est relativement droit. Les épaules sont ouvertes. Les mains peuvent être dans la position traditionnelle, les unes sur leurs autres, près du ventre. Ou elles peuvent être sur les genoux, les jambes, ou juste sur elles-mêmes. Ce qui nous convient. Les yeux peuvent être fermés ou à moitié ouverts. S'ils sont à moitié ouverts, on regarde dans le vague devant soi. On ne fixe rien. Nous essayons d'être assis aussi solidement qu'une montagne, mais aussi avec un peu d'espace, d'ouverture, comme l'océan. On peut poser son attention sur la respiration. Au bout d'un moment, on peut amener un peu la pleine conscience de la tonalité de ce contact, de l'air qui rentre, qui ressort. Nous pouvons être conscients, nous ancrer dans nos appuis, les pieds ou les jambes sur le sol. Le fessier sur le coussin. Peut-être aussi être conscient de la tonalité de ce contact. Nous pouvons ouvrir notre attention, notre pleine conscience bienveillante envers les sons qui apparaissent, qui continuent, qui changent. Peut-être d'être conscient de la tonalité à ce contact. Et si le son est relativement continu, est-ce que la tonalité change? Si nous sommes distraits, doucement nous pouvons revenir à l'encre de la respiration, des sensations, des sons, avec cette pleine conscience aussi de la tonalité. Ou autrement, nous pouvons nous intéresser à ces pensées qui surgissent, qui surviennent. Quel est le premier contact d'une pensée? Quelle est la tonalité de ce contact? Alors maintenant, il va y avoir de la méditation marché. Alors ça, c'est selon ce que vous pouvez faire. Bien sûr, si vous préférez rester assis par terre ou sur une chaise, ou si vous avez besoin de vous allonger, bien que ça soit un peu dur, ou juste d'être assis dehors, vous pouvez aussi faire ça. Ou autrement, si cela vous est possible de marcher, alors soit vous pouvez bien sûr marcher dehors, si vous n'avez pas trop froid, ou bien sûr vous pouvez marcher dans les couloirs, en bas, en haut. Et donc l'idée de la méditation marcher, c'est on va nulle part. On marche pour marcher. Donc on va utiliser cette posture, parce qu'il y a quatre postures pour la méditation, assise, en marchant, debout ou allongée. Et donc quand on marche, il y a en même temps deux vitesses. On peut soit marcher sur un petit parcours un peu plus lentement, mais pas trop lentement, pour ne pas perdre l'équilibre, ou soit si une méditation marcher lente vraiment ne convient pas à notre corps, alors là on peut partir pour une marche plus rapide, mais généralement il faudra la faire dehors. Alors vous pouvez la faire dehors si vous voulez, à condition bien sûr que vous reveniez. Et je préconiserais peut-être pour cette première méditation marcher d'essayer de voir est-ce que je peux faire une marche juste un peu plus lente dans les locaux. Et après, on explorera d'aller dehors, parce que ça peut être aussi très intéressant avec les tonalités, d'aller dehors dans la rue et tout ça. Donc, pour cette méditation marcher un peu lente sur un parcours pas très long, je recommanderais de commencer par la méditation debout. Donc, on est debout. On reste 30 secondes comme ça debout, on essaie d'avoir une bonne posture, on regarde devant soi, pas comme ça ses pieds, on espère qu'il n'y a pas d'obstacle, on fait attention. Et donc on est debout et on essaie, là on est plus, l'ancrage c'est sur le corps, donc on commence par le corps, mais après bien sûr on peut porter l'attention sur les sons, on peut porter l'attention sur ce que l'on voit. Et là, on regarde un petit peu la tonalité aussi. Et puis, si on se sent un peu distrait ou ça devient compliqué, on peut toujours revenir juste à la sensation des pieds dans les chaussures sur le sol. Quelque chose de simple. Et puis après, on marche. Un peu lentement, pas trop lentement, au moins que cela nous convienne. Et on est de nouveau juste conscient du contact, conscient des sensations, conscient du corps qui marche. On arrive à la fin de notre petit parcours, de nouveau on est debout et on repart. Et là, il y a un peu la question de l'ancre. Est-ce que j'ai une ancre un peu spécifique, étroite, qui va m'aider à me focaliser? Donc, généralement, je recommanderais le pied qui touche le sol. Ou est-ce que je vais avoir une ancre un peu plus étendue, comme la jambe qui se lève, qui se pose, qui se lève? Ou est-ce que j'ai de nouveau une ancre plus large, où je suis conscient du corps qui bouge, on pourrait dire dans l'espace? Et donc on peut voir un petit peu qu'est-ce qui va nous convenir, quelque chose de plus spécifique ou quelque chose de moins spécifique. Donc on fait ça, puis de temps en temps, on regarde quelque chose, la couleur d'une tulipe. Ce qui est intéressant, c'est que on peut regarder, on va parler de ça, bien entendu, pendant le week-end, on va parler comment la tonalité du ressenti est totalement imbriquée et vice-versa dans la perception. Mais ça, on ne peut pas tout faire à la fois. Mais c'est ça, on peut jouer un peu en marchant. Je regarde la couleur, je regarde la fleur en général, je regarde la forme, je regarde ce que ça me fait de voir la couleur, la forme, la chose en général. Par exemple, une tulipe ou une fleur ou une personne. Donc, on joue un peu sur qu'est-ce qu'on met à l'avant-plan, qu'est-ce qu'on laisse à l'arrière-plan. Et donc, comme on a un petit peu commencé un peu... Non, on n'a pas totalement suivi notre horaire, on va continuer un petit peu à ne pas le suivre. Et on va faire 30 minutes, enfin à peu près 25 minutes de méditation marché. Bien sûr, aller aux toilettes, prendre un café si vous en avez besoin. Et puis on se retrouve ici à 11h. Donc si, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va sonner la cloche, mais on peut la faire sonner à 11h-5. Et puis on va tous se retrouver pour s'asseoir 30 minutes. De nouveau marche 30 minutes et puis on finira par une discussion.